Eh bien oui, vous avez reconnu l'indicatif du Festival de Radio France et de Montpellier et nous allons écouter ici toute une musique qui était en fait dirigée par Monsieur Nem Jarvi et c'était en fait du tubine, le début de la 5e symphonie. Voilà. Alors aujourd'hui pour notre émission de la journée autour du Festival de Radio France et de Montpellier et surtout de la Occitanie, voilà. Nous allons écouter deux interviews comme chaque fois. D'abord, nous allons écouter eh bien monsieur Michael Schoenwand qui est le patron de l'orchestre de Montpellier et qui est là parce qu'il va nous donner le 24 un opéra qu'on donne jamais, c'est Ferval, un opéra de Dendy. Et ensuite, nous écouterons après un jeune violoncelliste qui s'appelle Christophe Croiset, qui a donné des concerts, pas mal de concerts, vous savez, des concerts aussi bien dans la salle Pasteur qu'autour de Montpellier, et j'ai eu la chance de la rencontrer. Donc tout d'abord, eh bien, écoutons M. Schoenwand autour de Ferval de Vincent Dendy. Donc M. Schoenwand, cet opéra... C'est-à-dire, donc, Ferval, c'est quand même un mystère, cet opéra. C'est-à-dire que c'est wagnérien, mais c'est pas wagnérien. Le rôle, il y a deux rôles monstrueux. Ça se passe dans le sud de la France pour une fois, ouais. Puis ça se passe dans les Cévennes après. Alors, comment vous, qui êtes quand même un chef wagnérien, et puis c'est Dendy qui a fait le livret, d'après un truc, un conte norvégien ou suédois, je ne sais plus. Suédois. Donc, vous vous retrouvez chez vous, mais vous êtes quand même un grand wagnérien. Donc, comment vous sentez tout ça?
Oui, mon... Quand on voit la partition pour la première fois, c'est évident que Vincent Dendy était inspiré énormément de la musique et des opéras de Richard Wagner. Il y a les mêmes structures, les mêmes idées des mythes, les mêmes couleurs dans l'orchestre, les mêmes idées des leitmotivs et tout
ouais,
ça. Mais quand on travaille un peu plus, on voit que c'est quand même une voix personnelle. Parce qu'il y a aussi un côté très français dedans.
Alors, qu'est-ce que c'est le côté français?
Si vous pensez à la musique de César Franck, par exemple, là, c'est beaucoup ça. C'est moins, disons, ciseriche dans l'orchestre, mais la sonorité est plus claire. Il y a une autre lumière dans la musique. Et il y a aussi une espèce de... naïveté, ce n'est peut-être pas le bon mot, mais quelque chose qui n'est pas touché. Donc, pour Wagner, c'est plus travaillé, c'est plus riche, c'est plus... il a vécu plus que, je crois, que Vincent Dendy. Vincent Dendy, c'est quand même quelqu'un qui est resté très, très strict, très sévère dans sa vie, très correct. Et on le sent dans la musique. Et aussi, il y a des éléments de musique populaire.
À la fin de sa vie, il n'a pas été très, très clair, quand même, Vincent Dendy. Il a fait des choses un peu...
Non, mais je crois qu'il est resté fidèle à lui-même.
Oui, d'accord.
Et ça, c'est... Bien sûr, ça n'a pas plu le grand plus bas autour de lui. Il était très inspiré de Wagner, aussi, dans le sens qu'il a écrit des choses très antisémites,
ah oui.
Très racistes. Et là, c'est pas très bien, juste, de l'écrire en 1930... disons, avant la guerre.
Ouais.
Mais je crois que même les gens qui étaient très opposés de lui l'ont respecté parce qu'il était un homme d'un grande intégrité.
Mm-hmm.
Lui, comme vous savez, il était le cofondateur aussi des Scuola Cantorum à Paris.
Oui.
Donc, on a eu les deux écoles, le conservatoire, le Scuola Cantorum, qui sont des symboles des deux... de ligne de la vie musicale à l'époque.
D'accord. Alors, par rapport au poème original, le livret de Dendy s'en éloigne beaucoup. Je ne l'ai pas lu, le poème original, ou pas plus que ça.
Non, moi non plus, mais c'est une histoire qui a duré longtemps pour lui.
Mmh.
Il a assisté à la création de Parsifal de Wagner à Bayreuth en 1881. Alors, il a commencé tout de suite à dire, mais comment est-ce qu'on peut écrire un opéra sur la même base? Parce qu'il ne faut pas oublier que Parsifal... on ne peut l'écouter qu'à Bayreuth. C'était interdit de le jouer ailleurs.
À cette époque-là, oui.
Oui, c'est ça. Jusqu'à 1920 ou des choses comme ça. Donc, pour avoir une idée de ce monde musical, il fallait écrire quelque chose dans le style de Parsifal.
D'accord.
Alors, il a pris cette histoire nordique d'abord, et puis il a tout de suite compris, mais non, je vais écrire quelque chose qui est basé sur mes racines à moi. Ici, dans le sud de la France, les Cévennes, bien sûr. Alors, il a tourné cette histoire, mais il est vrai que c'est aussi très Parsifal dedans, quand même.
Oui.
C'est très, très tétralogie aussi.
Oui, c'est ça. On dit que le rôle du héros, c'est une espèce de Tristan, une espèce de
ouais, Parsifal. On a des moments de Tristan, on a beaucoup de moments de Parsifal. Il y a aussi des maîtres chanteurs dedans, il y a aussi la tétralogie. Mais ce n'est pas seulement une copie. C'est vraiment une. Il l'a transmis à l'intérieur de lui-même pour arriver à créer sa propre musique, son propre monde. Alors je trouve que c'est une partition très personnelle, énorme dans tous les sens. Il dure beaucoup de temps, l'orchestre est énorme, les rôles sont énormes, le texte est énorme et énormément difficile à comprendre parfois, mais c'est, il ne faut pas oublier, c'était l'époque. Si vous lisez les poèmes de Maeterlinck ou si vous voyez l'architecture d'un nouveau, d'un déco à l'époque, c'est pas évident non plus.
Oui, non, pas du tout. Oui. Alors, est-ce que c'est la difficulté des deux rôles principaux qui fait qu'on le donne pratiquement jamais? Il y a un enregistrement, quelques extraits orchestraux, et puis on ne trouve rien.
Je crois que c'est ça. Les difficultés sont énormes. Alors, non seulement ils sont difficiles à chanter, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique à apprendre pour les chanteurs. Donc, juste de pouvoir chanter jusqu'au bout, il faut qu'on trouve quelqu'un qui a le moyen, l'intelligence, l'artiste et l'envie. Alors, c'est pas évident. Et puis, il est vrai aussi que si vous montez un opéra de Vincent Dandy, je crois que 99% disent c'est qui Vincent Dandy.
Oui,
alors, c'est pas quelque chose qui est évident à vendre aujourd'hui.
On avait eu L'Étranger ici il y a 3-4 ans, ou 5 ans, je ne sais plus. Ouais. Ce qui c'était pas laid comme musique, c'était agréable à écouter, mais bon. Alors, est-ce que c'est vraiment un Elden ténor, pour embrouiller les gros mots, comme le chanteur ou pas du tout?
Pardon, je ne sais pas.
Est-ce que c'est un Elden ténor, un ténor, vraiment le ténor wagnérien ou pas du tout?
Si, c'est wagnérien. Ouais. C'est clair.
Parce que il semble que c'est Van Dyck qui l'a créé.
Oui, c'est ça. Et
qui était quand même un sacré ténor wagnérien.
Oui, c'est ça, mais on a besoin d'une très grande boîte, avec beaucoup de puissance, pour soutenir, mais aussi de la beauté. Ouais. Alors, on ne peut pas crier cette musique ici. Alors,
d'accord.
Il faut les chanter.
D'accord.
Et c'est le cas pour tout le monde, même pour l'orchestre. Il ne faut jamais forcer le son, il faut toujours chanter, laisser vivre le son.
Discrepancia sempiterna. Ut facis temporibus defessi, facinora preclara petentes, in bellum nos cognicianus, ut interpunctus
thank you.
Combien d'opéras vous connaissez par cœur ou vous êtes capable de tout écrire,
hein, en gros? C'est pas une trentaine.
Ah oui, d'accord.
Une trentaine au moins, une quarantaine peut-être. Voilà.
C'est-à-dire que comme ça, vous êtes capable de...
Non, je suis un petit tiroir, disons, à l'intérieur de ma tête. Et si on dit, ouais, voilà, est-ce que vous voulez faire Parsifal, je ouvre la partition et clic.
De suite,
la musique est là de nouveau, mais je ne peux pas le faire comme ça. Mais il faut entrer dans le monde d'abord.
Alors, je ne sais pas si vous faites comme ça, mais Friedman Laier, qui était un des anciens directeurs de Montpellier, me disait que lui, avant le spectacle, il arrivait 2 heures ou 3 heures avant, il s'asseyait et il se faisait défiler dans sa tête toute la partition. Rapide. Vous faites ça, vous aussi?
C'est un peu la même chose, oui. Moi j'arrive aussi à la bonne heure avant un concert, un spectacle. Et bien sûr, on lit la musique parce que on ne peut jamais faire la même chose deux fois. Nous sommes différents, le monde est différent, il y a de nouveaux chanteurs ou des choses comme ça, il y a toujours des éléments qui sont différents, et il y a aussi des réflexions après le dernier spectacle qu'il faut essayer d'intégrer dans la conception qu'on fait pour le spectacle suivant.
D'accord. Alors le fait de jouer sans partition, c'est pas de se dire, oh là là, il y a tel musicien ou tel chanteur qui va faire une erreur, il faut que je le récupère, c'est pas ça votre problème?
Non, c'est pas ça, mais diriger par cœur me donne un contact visuel plus étroit avec mes chanteurs et mes musiciens. Vous voyez, parce que s'il faut tourner la page, alors forcément il faut couper le contact visuel avec les musiciens et on revient. Mais si on est là tout le temps en dirigeant, alors...
Oui, ce que vous dites, ça ressemble un peu à ce que disaient les musiciens quand ils dirigeaient sous la direction de Mitropoulos, où ils disaient, enfin de New York, donc ils disaient que lui, il faisait tout par cœur, et que mentalement, ils étaient arrivés à le voir tourner la page.
Oui, ouais, c'est ça. On a des mémoires différentes, il y a des mémoires photographiques, disons.
Oui, c'est ça, oui.
Où on a les partitions. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est le son... Que j'ai senti physiquement. Et quand je commence à diriger, j'ai une sorte d'anticipation du son.
D'accord.
Et c'est ça qui me fait, ah oui, je me souviens, c'est comme ça.
Ah, d'accord.
Voilà.
D'accord.
C'est pas juste, comme si on a photographié le journal ou des choses comme ça, non.
D'accord, d'accord. Et est-ce que vous sentez, vous, en tant que chef, maintenant vous avez un certain âge, que par rapport à une certaine époque, par exemple, le tempo, ou les tempi. Est-ce que vous sentez que toujours les chefs ou le pianiste, souvent ils ralentissent au cours du temps? Est-ce que vous le sentez arriver, ça?
Difficile à dire. Parfois je me dis que je suis devenu plus rapide avec le temps.
Ah oui.
Je sais pas. Mais il faut toujours prendre les tempi qui sont naturels pour moi.
C'est le cœur, c'est ça?
Oui, c'est le cœur.
Et
mon cœur, mon cœur bat toujours très bien.
Oui, c'est toujours le cœur. Enfin, le cœur parle, le cœur, l'organe, c'est ça. C'est ce qu'on dit, que quand un chef ou un pianiste, un instrumentiste vieillit, son rythme ralentit, et donc quand il se base que sur le cœur, bon.
Oui, les deux choses essentielles pour faire de la musique, des connaissances, c'est la respiration et le cœur, n'est-ce pas? Alors, nous, si on ne respire pas dans la musique, il n'y a pas de musique. La respiration, c'est comme nous, quand on parle ensemble, il faut respirer avant de parler. Et pareil pour nous, il faut anticiper la musique en respirant.
D'accord.
Et moi, je peux sentir le bon tempo. Si je respire avant une phrase, je peux sentir, est-ce que je peux aller jusqu'au bout avec cette phrase dans ce tempo?
D'accord.
Si je suis trop lent, alors il faut respirer au milieu de cette phrase. Si je suis trop rapide, alors je ne termine pas ma respiration. Voilà,
et vous pensez que les musiciens sont sur votre respiration aussi?
Oui,
on peut dire. Tu parles pas des chanteurs?
Non, mais avec les chanteurs, c'est encore plus important.
Oui, bien sûr.
Mais avec les musiciens aussi, si on ne donne pas avant de jouer, alors ils ne savent pas. Parce qu'eux, ils respirent aussi, non seulement les instruments avant, mais aussi les violons.
Bien sûr.
Mais c'est ça.
Et dernier point par rapport à la direction. On a des fois des chefs, ils battent en même temps que les. Il n'y a pas d'avance du chef par rapport à la musique. Bon, vous, je pense qu'il n'y a pas trop d'avance, mais il y a des fois des chefs où il y a une mesure, voire plus. Comment on arrive à intégrer ça?
C'est une question assez intéressante, parce que dans l'orchestre au suivant, la réaction à mes battues sont différentes. Il y a des orchestres qui sont habitués à jouer beaucoup derrière le geste de chef. Il y a des orchestres, surtout les orchestres qui jouent dans le studio, l'orchestre radiophonique, ou les orchestres qui font beaucoup de disques, ou des choses comme ça, qui jouent exactement
en même temps que
moi. Moi, je préfère quand même d'être légèrement à l'avance. ça donne plus une microseconde temps de réaction pour les musiciens pour comprendre le geste, que le son que j'aimerais bien avoir. Vous voyez, si on fait directement ça, le son va être comme ça. Si je bats légèrement à l'avance, peut-être qu'il y a moins d'attaque, et plus de rondeur.
Mais comment on le fait passer aux musiciens, le fait que vous allez avoir une petite avance? Comment ça se concrétise?
Ah, ça, c'est le mystère. Je ne peux pas vous répondre.
Vous ne savez pas.
Non, on sent si on est... Les jazzmen dirions si on a le groove ou non. Alors, si on a le groove ensemble, moi et l'orchestre, oui, on est là. Mais je vous avoue, parfois, quand je dirigeais à Vienne, à l'Opéra de Vienne, où l'orchestre joue beaucoup d'air, le temps, mais... j'ai eu des chocs parce que j'ai fait un grand geste et
il ne se passe rien.
Et on a le cœur encore qui va bof. Et alors, une demi-seconde plus tard, tout le monde commence à jouer. Voilà.
D'accord.
Alors,
il ne faut pas tomber dans le système Furtwängler qui, lui, au début, c'est très bizarre. Ça, la baguette se met à tourner, puis pof, d'un coup, tout le monde démarre. Et ça c'est pour un ignare comme moi, c'est pas compréhensible.
Non, mais c'est le mystère de notre boulot, c'est la transmission d'émotions qui compte, c'est pas la baguette.
Ouais. Mais ça, il faut que les musiciens le perçoivent totalement.
Il faut le connaître. Ouais. Et là, c'est pour ça que j'aime bien travailler très régulièrement avec les mêmes musiciens, parce qu'on trouve une communication commune là, ce qu'on ne peut pas avoir si on travaille 2-3 jours avec un orchestre inconnu.
Oui, surtout qu'il ne faut pas trop parler en plus.
Non, c'est ça.
C'est pas bien de parler, de raconter sa vie avant de jouer.
Non, mais c'est, aujourd'hui, les musiciens sont sur un tel haut niveau que la question comment est-ce qu'on va jouer une telle phrase, c'est très vite répondu. Mais la question pourquoi est-ce qu'on joue cette phrase, c'est peut-être notre travail, nous les chefs.
D'accord.
Vous venez donc d'écouter Michael Schönwand qui va vous diriger le 24, et bien ce Ferval de Vincent Dendy avec Michael Sprares, qui est quand même un grand, grand ténor, et c'est un exploit de chanter un tel rôle. Donc ça se passera à 20h à l'Opéra Berlioz du Corum. Et je répète, des fois que je n'ai pas dit, Michael Schönwand est le patron de l'orchestre de Montpellier. Et entre les deux parties de l'interview, vous avez entendu un enregistrement de Michael Schönwand, c'est pas le dernier. Il s'agit de la symphonie numéro 9 de Paul von Klenau. Vous avez entendu le début du troisième mouvement, et cette symphonie en comporte 8. C'est l'orchestre danois qui a été donc enregistré excusez-moi, en 2016. Maintenant, nous allons passer au deuxième interview. Il s'agit d'un jeune violoncelliste qui s'appelle Christophe Croiset, qui donnait pas mal de concerts au festival. Il en a donné à Montpellier, il en a donné à Castries, il en a donné ailleurs, je ne me rappelle plus où. Et j'ai eu la chance de le rencontrer. Donc nous allons écouter Christophe Croiset, jeune violoncelliste franco-allemand-suisse. Voilà, avec un petit accent qui, ma foi, n'est pas désintéressant à écouter.
Alors Christophe Croiset, comme votre nom le laisse sentir, comment dirais-je, Christophe sans E, et Croiset, ouais, ça fait un peu français. Alors oui, évidemment, vous êtes franco-allemand et suisse, c'est ça?
Alors mon père est français, ma mère est allemande, et je suis grandi en Suisse.
D'accord.
Jusqu'à 19 ans. D'accord. Et après, je suis allé à Berlin pour mes études, et maintenant je suis resté à Berlin.
D'accord. Alors, il y a quelque temps, vous avez eu un premier prix, et ça a pas mal, ça a pas mal agité la critique un peu.
Oui, il y a... Je pense pas... Oui, c'était, je pense, 5 premiers prix en 2016.
Quelque chose comme
oui,
ça.
Oui. Et
donc, vous pouvez nous
toujours
en parler.
C'est toujours bon, oui, de d'avoir, d'être si heureux, qu'on dit, ouais, heureux. Mais avec les compétitions, c'est... Ah, je trouve que c'est très difficile à juger la musique.
Ouais.
Parce qu'il y a des différentes styles, différents angles qu'on peut le juger.
Mmh. Mais c'est bon. Mais c'est plus dur pour de juger un violoncelliste, un violoniste ou...
Si on juge un violoncelliste contre un autre violoncelliste, je pense que c'est la même chose de juger un violoniste.
D'accord.
Contre un autre violoniste. Mais pas...
Pas tout mélangé.
Non, non, non.
Alors vous, si on devait caractériser votre style musical, c'est plutôt un style, je dirais, français, le style violoncelle. Enfin, l'école de violoncelle français est bien existante. Mm-hmm. C'est sûr. Peut-être un peu moins en Allemagne, non?
Ah, je ne sais pas. Mais moi, je peux dire que j'essaie de... Pour moi, c'est très clair. Les styles sont très clairs.
Le style français, c'est quoi? Si c'est clair, ça doit s'esquiver.
Non, j'ai pas dans ce sens. Je pensais que les styles dans la musique, le baroque,
d'accord.
Bach, classique, romantique, 20e siècle, contemporain, oui, et ça c'est très clair. Alors je n'essaie pas d'avoir une école ou quelque chose, école allemandique ou école français, mais je travaille d'essayer de jouer authentiquement dans ces styles. Ça, c'est très important pour moi. Alors, j'ai aussi, je travaille avec, par exemple, un archet baroque, pour Bach, pour Boccherini, pour les choses comme ça, et avec, comment on dit, gut strings, les cordes...
Les cordes naturelles,
un moyeu,
d'accord.
Oui.
Mais votre instrument, il s'adapte assez vite comme ça, quand vous changez de corde?
Non, ça prend un peu de temps.
Quoi, un jour ou deux, c'est ça?
Oui, c'est ça. Et par exemple... Si j'ai un concert aujourd'hui, ce soir, je vais jouer du Bach, mais je ne change pas de corde parce que j'ai joué le programme français maintenant. Alors, c'est dans 5 heures, je pense.
Oui, c'est ça, 19 heures. Oui. Mais par exemple, vous allez jouer du Bach, du Ligeti et du Cassado.
Oui.
Bach, Ligeti, bon, même si Ligeti, c'est quand même, même si c'est un compositeur contemporain sur lequel on a beaucoup discuté,
oui.
Je pense qu'il est assez indiscutable comme compositeur.
Oui.
Et vous le trouvez éloigné de Bach, dans le sens des recherches, de ses recherches à lui?
Oh, c'est très difficile à dire. Non. Non, pour... Alors, cette œuvre, cette sonate de Ligeti, c'était
composé, oui.
Composé quand il était très jeune.
C'est oui, opus... Je sais pas, mais oui, c'est jeune. C'est
très jeune. Alors, par exemple, le premier mouvement est très tonal, très on a un peu l'air de la musique celtique. Quelque chose comme ça. Ça, c'est mon imagination. Mais alors, c'est pas très... Oui, bien sûr, c'est une grande gap.
C'est un grand écart entre les deux.
Oui, entre les deux. Mais ça va. Ça va. Le Cassado, c'est beaucoup plus... C'est la musique qui est parfaite pour ici. Parce qu'il fait chaud... Et oui, Cassado, il est d'Espagne. Alors, c'est on peut vraiment imaginer les olives. Et les...
Il y en a ici, les olives aussi.
Oui, j'ai vu, c'était fantastique au Château d'Eau quand il y avait des olives. Et, c'était super.
Il faut pas les manger sur l'arbre. Hein.
Non.
Thank you. Et pour conclure, vous avez des enregistrements qui sont sortis ou qui vont sortir ?
Oui, maintenant, c'était les deux concertos de Haydn qui sont sortis. C'était en avril.
Et quel était l'orchestre ?
L'orchestre, c'est Eurasian Soloist Chamber D'accord. Orchestra. D'accord. Et c'était son chef. Son chef. C'était juste moi avec l'orchestre et ce qu'on avait essayé de faire dans cet enregistrement, c'est on a essayé de jouer comme dans le ton de Haydn. Alors, on a pris un cembalo, c'est quoi ? Harpsichord, cembalo.
Un clavecin.
Clavecin, c'est ça. Ouais. On a pris ça parce qu'il y avait un clavecin dans
Esther Hassi. Oui, les premières symphonies de Beethoven, oui, il y avait un clavecin aussi.
Oui, hein. Oui. Alors, mais il n'y a pas beaucoup d'enregistrements avec clavecin. Ouais. Alors, on a pris ça, c'était la première chose. On est resté avec des instruments de notre temps,
ouais.
pas baroque. Mais on a essayé d'avoir l'air de cette période aussi avec le son
Et le diapason, vous l'avez changé aussi?
Je ne sais pas.
Comment vous savez?
Parce que je ne regarde pas les critiques.
Non, le diapason. Non, je veux dire le diapason, le pitch.
C'est quoi?
Le diapason d'un instrument. Le la. C'était.
Le
diapason. Non, la critique, non, je m'en doute.
Non.
400 combien?
oui, c'était bon. Mais depuis. C'était moderne.
Moderne.
Comment je dis?
440.
Oui.
D'accord.
Oui. Non, parce que c'est un peu problématique. Si on le fait, on a besoin de le faire. 15, non?
Ouais.
Et on a. Non.
Non, ça n'est pas.
Non. Non, aussi, on n'a pas pris les cordes à.
Au boyau.
Oui. Alors, on a dit. On a D'accord. pensé à. Non, on fait tout moderne, mais avec l'esprit.
D'accord.
Eh oui.
Et pour conclure, les prochains concerts après Montpellier, ça sera où?
C'est. Je vais en Écosse.
Oui.
Oui, pour trois concerts. Et après, à Davos, pour le Davos Festival, c'est 6 concerts. Et après, à Genève, pour une journée de Brahms avec trio, quatuor, sextuor. Oui, tout le Brahms. Et après, je vais à Wissembourg. Pour le festival de Wissembourg.
D'accord, donc pas le temps de vous ennuyer.
Non, juste le
temps de répéter les morceaux qui arrivent.
oui, c'est beaucoup dans cet été, mais c'est un plaisir.
D'accord. Oui. Eh bien, je vous remercie beaucoup.
Merci.
Et je vous dis peut-être à bientôt.
Oui.
Merci
bientôt.
Encore.
Merci.
Donc, deuxième interview de cette émission consacrée au Festival Radio France de la journée. Vous avez écouté Christophe Croisé, violoncelliste donc d'origine allemano-franco-suisso, voilà, qui nous a parlé donc de son violoncelle, de son instrument, et que également nous avons pu écouter dans ce concerto de Haydn, c'est le numéro 1. Il était accompagné ici par l'Eurasian Soloist Chamber Orchestra, dirigé par, en fait, la direction sera plus tard, mais c'est Tchernyaz Musakan. C'est un enregistrement avié, c'est-à-dire c'est une firme autrichienne. Voilà. Alors pour maintenant conclure cette émission, quelques concerts à ne pas louper. Vous savez qu'on ne peut pas tout donner, car en effet, le 23, le 24 et le 25, il y a 10 concerts. Bon, donc on ne peut pas parler de tout. Donc nous parlerons du premier concert qui a lieu à 17h30 aujourd'hui, et c'est autour de Magnus Lindberg au piano, dont normalement nous devrions entendre un peu de son. Voilà, ça s'appelle From Finland with Love. Et nous aurons ce soir à 20h, donc, alors le premier c'est à 17h30 au Corum, salle Pasteur. Le deuxième c'est à 20h au Opéra Berlioz. Et c'est Jan Lisewski piano, l'orchestre des jeunes australiens, dirigé par Christophe Urbanski pour du Glinka Rachmaninoff. Maninov Shostakovich. Voilà. Et nous aurons le 24, 10 concerts également. Nous aurons de nouveau à 17h30 le même concert avec Marina Schisch, Katnitzen et Magnus Lindberg et Florent Beaufard. Vous aurez à 17h, donc ça se passe à Berlioz, ça se passe à la salle Pasteur. Vous aurez également à Kournosek Cyprian Enstai à la guitare, qui lui aussi a donné un certain nombre de concerts déjà. Et vous aurez donc à 20h à l'Opéra Berlioz le fameux Ferval de Dendy dont nous avons parlé avec le chef Michael Schönwand. Voilà, ceci termine notre émission pour aujourd'hui. Nous allons nous retrouver au minimum une fois encore, peut-être deux, parce qu'il y a plusieurs interviews qui sont encore à gestation. Voilà. Je remercie Stéphane à la technique et je vous dis à fort bientôt pour ce festival de Radio France.